Vous écoutez
RMC. RMC. Le grand oral des grandes gueules.
Monsieur Dave est avec nous.
Merci de votre accueil et bonjour.
Bonjour Monsieur Dave, comment allez-vous? Quelle idée de refaire un disque de chansons originales?
Alors qu'on parle de la réforme des retraites.
Ah, si j'avais eu une retraite cadre, je me serais peut-être arrêté.
Vous n'avez pas vos trimestres ou quoi? Vous n'êtes pas à l'abri du besoin, vous n'avez pas vos trimestres?
Et on n'est même pas à l'abri d'un succès, c'est ça qui m'intéresse.
Alors cet album, il est assez étonnant parce qu'il y a des chansons engagées. Ce qui est quand même un peu une première chez vous. Notamment cette chanson qui fait beaucoup parler, la fille aux deux papas, puisqu'on est en plein débat sur la PMA, voire la GPA. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à chanter cette chanson écrite par Patrick Loiseau?
Mais parce qu'il y a Marc-Olivier Fogel, depuis l'Eurovision en 2003, est devenu un de mes proches. Et donc il vient nous voir dans notre maison dans le Vaucluse. Et il y a 2-3 ans, il est le parrain d'une de ses filles, Mila. Il a demandé à Patrick Loiseau de faire une chanson. C'était mignon. Patrick l'a fait et on n'avait à ce moment-là pas encore un projet très précis pour un album, qui est donc venu après parce qu'un jour, Renaud, que je vois pas mal là-bas, parce que lui, c'est le René Char d'aujourd'hui, en fait, de l'île sur la Sorgue. Et il a dit dans un dîner où il est toujours un peu prostré, il s'est dit, il faut quand même un de ces jours qu'il se fasse un disque. Il dit, ah oui, la France n'en peut plus, c'est vraiment urgent. Donc, il m'a foutu de ma gueule et ça m'a un petit peu piqué. Il dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Et donc, il a écouté après, notamment cette chanson. Et comme, évidemment, comme on dit aujourd'hui avec un mot un peu éculé, c'est une chanson sociétale, il a voulu écouter d'autres chansons, notamment une chanson qu'il aime beaucoup, qui s'appelle Quittons-nous bons amants. Et suite à ça, il a dit, je produis. Mmh. Et je croyais encore qu'il se foutait de ma gueule. Non, il a vraiment produit.
Donc, disque produit par Renaud, ouais. Chanson inspirée par Marc-Olivier Fogiel. Et c'est une chanson qui, en fait, répond à tous ceux qui s'opposent à ce changement,
c'est finalement, une chanson sociétale. Militante.
Parce que j'ai noté ça. Vous dites, à un moment donné, vous chantez dans son cœur, tout est clair. Et la sainte famille machin qui croit savoir où est le mal, où est le bien, elle n'en a rien à faire. Au contraire, elle a tous ses repères.
Oui, j'aime beaucoup les citations de Brassens, évidemment. Et puis, comme ils disent aussi, un clin d'œil à Aznavour. Et c'est vrai que c'est pas une chanson qui prend tellement parti, mais c'est une chanson, surtout moi, ce que je retiens de cette famille, c'est-à-dire Marco, François, Mila et Lily, que c'est une famille heureuse, avec des enfants équilibrés. Il y a d'ailleurs maintenant en étude, parce qu'on commence à avoir un certain recul quand même sur le phénomène. Et il y a notamment deux psychiatres, pédopsychiatres, qui ont envoyé un dossier à l'Assemblée Générale. Les enfants nés sous GPA sont souvent plus équilibrés et plus conscients d'où ils viennent, d'où ils sortent.
Fatima Ibounoua.
Moi, ce qui me gêne un peu dans cette chanson, c'est que j'ai l'impression, vous critiquez le catéchisme de la Sainte Famille, machin, mais pour en proposer un autre, une autre forme de catéchisme avec cette chanson qui est très, qui voit la question par le tout petit bout, par une seule famille. Et de cette famille-là, on fait une généralité. Et finalement, moi, ça me...
Alors, je vous conseille de lire le livre de Marc-Louis Fogel, parce que dans le livre de Marc-Louis Fogel, il ne parle pas de lui, il parle aussi de lui.
Oui, mais vous, je parle de votre chanson.
Oui, parce et que... moi, je vous parle du phénomène GPA. Et dans ses autres chapitres, il parle de toutes ses familles, pas d'une famille. Donc, c'est-à-dire que c'est un phénomène mondial, on peut le faire d'une manière plus ou moins confortable. Et c'est là où il y a un problème, si je regarde avec vous, c'est un problème d'argent. Mais sinon, il y a des manières de le faire moins cher, on peut le faire même avec sa grand-mère, si elle peut encore le faire.
On parlait à l'instant de la tribune dans Libération pour la condition...
vous ne rebondissez pas sur ce qui vient de...
Non,
il y a autre chose à faire. Oui, il ne peut plus répondre, il a agi maintenant.
Depuis le temps qu'on se croise. La condition animale, il faut un ministère de la condition animale. Je reviens simplement à ce qui était nos sujets d'actualité. Oui ou non?
Vous avez signé la tribune de Libération.
Ouais. J'ai toujours un peu peur de légiférer à n'importe quel sujet, notamment étant hollandais, toujours néerlandais, j'ai pas changé de nationalité. On a légiféré au sujet de l'euthanasie et ils regrettent un peu, ils ont envie de faire marche arrière. Alors, il faut laisser faire aussi un peu les gens et leur donner un certain moyen de s'exprimer, de faire, et aussi pour les animaux aussi. Moi, j'ai peut-être honte, mais surtout après avoir lu le livre de Gisbert, je suis carnivore, j'aime manger.
Vous avez honte de manger de la viande?
Parce que je ne sais pas exactement comment ils ont été assassinés, si vous voulez. Donc, si c'était fait d'une manière propre.
Ah, assassinés.
C'est le mot un peu.
C'est un meurtre.
Je choisis mes mots, je réfléchis avant de parler.
Tout dépend. Vous pouvez connaître l'origine de la viande que vous consommez.
Et à chaque steak, ça ne peut pas aller à l'abattoir non plus. Hein.
Oui, il ne sait pas forcément dans quelles conditions l'animal a été abattu.
Mais vous parlez d'assassinat.
C'est-à-dire que
vous n'êtes pas devenu vegan.
Non, parce que moi, je demande pardon à mon steak.
Non, sans déconner. putain.
Excusez-moi, mais c'est tellement bon.
je reconnais celle-là.
Chaque steak valait, vous dites pardon, petite prière.
Excuse-moi, mais j'espère que ça s'est bien passé pour toi, mais j'ai faim.
Elle est bonne. Barbara Lefebvre.
Oui, moi je pense que vous allez quand même rester dans l'histoire de la variété pour des chansons comme Vanina, comme Du côté de chez Swan, etc. Je ne sais pas si vous allez vraiment rester dans l'histoire de la variété pour cet album-là, parce que finalement, les chansons à message, c'est intéressant quand c'est très urticant, quand c'est très provocateur. Mais là, c'est quand même assez bien pensant. Il manque peut-être plus que l'écologie. Il n'y avait pas une chanson écolo dans votre
Cette chanson a d'une immense intégrité que vous n'avez clairement pas ressentie. Je suis un peu
tout en ne pas
me comparant à Aznavour. Évidemment, Aznavour, à un certain moment de sa vie, il faisait des albums parce qu'il avait envie d'en faire. Et il se posait pas les questions, est-ce que ça va marcher? Et en plus, il fait pas partie de ceux qui veulent laisser des traces. Je ne suis pas un limace. Donc, je veux pas laisser des traces. Je veux juste faire ce que j'aime. Je suis une hédoniste. Enfin, il n'y a plus rien pour rester latin. Et j'avais envie, à ce moment-là précis, de faire cet album. Quand Renaud a fait son album, qui a fait plus de d'ailleurs, l'album de Renaud sort 20 novembre et qui est exceptionnel. Je vous le conseille vivement, pas seulement parce qu'il est mon producteur, mais parce qu'il est bon. Et donc, j'espère, vous savez, enlever l'image d'un chanteur comme moi, une image qu'on appelait les chanteurs pour minette. On rigole. C'est-à-dire que c'est aussi compliqué de l'envoyer le truc que mettre le taxi quand il vous garer à votre place. C'est très compliqué. C'est très dur. Mais moi, j'ai fait un spectacle à Bobino le 18 novembre où je vais chanter cette chanson-là et j'ai choisi Bobino parce que c'est mes chansons, on sait plus ce que c'est des chansons rive gauche. C'est pas de son rive droite, donc j'ai pas fait l'obligation.
Et justement, c'est intéressant ce que vous dites, chanteur à minette, etc. Non, mais parce que dans ces chansons que vous chantiez dans les années 70-80, vous ne faisiez pas état ni étalage de votre vie personnelle, de vos orientations personnelles. Ça intéressait d'ailleurs, excusez-moi, mais ça intéressait pas les gens.
Tant mieux.
On s'en fichait complètement parce que ce qui intéressait, c'était l'artiste,
absolument,
c'était la musicalité, c'était la joie, les refrains de ces chansons. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, si vous démarriez aujourd'hui dans le show business, vous pourriez écrire des textes comme ça en étant qui vous êtes et en n'ayant pas envie d'étaler votre vie personnelle et de chanter Vanina ou Du côté de chez Swan, Les jeunes filles en fleurs, alors que c'est pas forcément votre tasse de thé, Les jeunes filles en fleurs. Eh ben, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez chanter ça? Aujourd'hui, on demande à tout le monde d'être dans la transparence, dans l'intégrité absolue. Et finalement, excusez-moi, mais du coup, c'est pas très fun non plus la variété française.
Où est passé le fun? En fait,
ah ben, je suis un peu d'accord avec vous, ouais. Mais je me réveille tout le matin à 5h, ce qui peut être un signe de dépression, je sais pas, mais un peu déprimé, parce que je me demande comment dans ce spectacle que je vais faire, je veux amener du fun et de l'énergie.
C'est un peu la question que j'allais.
Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. C'est une question que je me pose, et je pense que ça serait dans ma manière d'être, ce serait plutôt entre les chansons que pendant les chansons.
Ah, oui.
Je suis avec vous. Mais parce qu'on ne peut pas ne pas être un peu mélancolique quand on a 75 ans, l'âge moyenne de l'homme est de 82. Il ne me reste plus beaucoup. Donc, j'ai vraiment fait ce que j'ai envie de faire. Je ne me suis pas posé la question sur l'efficacité, qui est un gros mot pour un artiste.
Mais ça c'est une grande liberté. Et justement, pour aller dans ce sens-là, qu'est-ce que vous regrettez le plus de ces années fastes, des années 70-80 dans l'industrie du disque, précisément?
Ben, je regrette évidemment l'insouciance et en fait, en même temps, c'est bien d'insouciant et inconscient aussi. Je regrette en moi-même d'être lucide. Parce que, comme toutes les qualités, à un certain dos, ça devient un défaut. Mais j'y peux rien, on m'a fait ainsi. Donc, j'ai juste envie d'être vrai, quoi. Puis, poi vediamo, comme on dit en italien, on verra bien.
Ouais.
Mais vous avez sûrement raison de ce que vous dites. Mais je pense que vous allez être surpris. Venez me voir, à 80 euros, vous avez une très bonne place. Dans le carré d'or. Je ne sais pas si on reste.
Mais l'album s'appelle Souviens-toi d'aimer.
Souviens-toi d'aimer, c'est l'abbé Pierre.
Voilà. Mais justement, parce que vous dites,
vous aimez beaucoup l'abbé Pierre.
J'aime beaucoup l'abbé Pierre, effectivement.
Sans doute.
Longtemps qu'on l'a pas.
Mais sur
invité.
Non. Effectivement, il y a une sincérité dans votre façon d'aimer à vous qu'on découvre. Et ce que je trouve assez intéressant, oui, dans par exemple le morceau 3 inséparés, où vous faites une déclaration d'amour qui vous ressemble finalement. C'est très paradoxal. C'est un peu comme les amants.
Quittons-nous bons amants.
Voilà, quittons-nous bons amants. On a l'impression que vous vouliez aussi surtout chanter ce paradoxe-là, que c'est un album adressé à quelqu'un aussi.
Ben, oui.
Mais sur cette ambiguïté, parce que on vous voit, on vous connaît comme quelqu'un d'assez, comment dire, léger. On a l'impression que vous êtes léger, mais là on voit une gravité, parce que même si on dit quittons-nous bons amants, séparés, voilà, on peut se quitter, s'aimer quand même, comme si vous étiez assez libre. Moi, j'ai l'impression en vous écoutant qu'au contraire vous êtes vraiment un angoissé de l'abandon.
C'est-à-dire, on entend autre chose que ce que vous dites pendant tout l'album.
On est très complexe tous, vous savez. Mais dans les chansons Quittons-nous bons amants, qui était une de mes chansons préférées de l'album, ça se terminait sur Quittons-nous bons amants. Et j'ai demandé à mon compagnon et parolier Patrick Lezot, non, on ne termine pas comme ça. Oui. Et j'ai demandé d'ajouter dans un an, dans 10 ans, pour avoir encore un petit peu d'espoir. Et dans par exemple, Il n'y a pas d'amour heureux, chanté entre autres par Brassens et François Sordi, donc un poème d'Aragon, évidemment. Aragon termine pas sur Il n'y a pas d'amour heureux. Il se termine sur Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à nous deux. Il y a une ouverture. Et c'est l'ouverture qui m'intéresse, sans aucun arrière-pensée.
C'était mieux avant ? C'est un album nostalgique. C'est un album.
Il y a de nostalgie, parce que dans toute la nostalgie de ce qu'on fait aujourd'hui, dans 15 jours, je dirais, oh, c'était bien et tout. Mais dans la nostalgie, il y a aussi algie, il y a aussi douleur. Donc c'est un mélange de deux. Oui. C'est évident, mais c'est ça ma vie.
L'album de la nostalgie, c'est-à-dire de regretter ce temps-là, pas par rapport à l'âge qui passe, mais se dire, on a vraiment une époque formidable par rapport à celle qu'on vit aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est votre état d'esprit ou pas?
C'est-à-dire que quand je marche au milieu des tags dans des endroits qui sont plutôt jolis, je regrette, même si parfois il y a des tags pas mal, mais c'est vrai que j'ai l'impression de vivre aujourd'hui un peu Blade Runner, quoi. Ça m'inquiète un peu, c'est normal. J'adore le monde cosmopolite, donc je pense pas que je regarde derrière moi. Je regarde derrière moi à partir de l'âge de 50 ans, en gros, on sait que la vie est une maladie sexuellement transmissible et qui se termine par la mort. Donc ça, j'en suis très conscient. Notamment, il y a une chanson sur l'album sur mes amis morts du sida. Et évidemment, j'ai vécu ça, j'avais 50 ans, j'étais confronté à la mort. Au quotidien, 80% de mes amis sont morts d'ici là. Donc, ça met une ombre sur la vie, inévitablement. Mais heureusement, comme dirait De Gaulle, il y a des bons moments quand même aussi. Tu peux toujours t'asseoir sur une terrasse à Saint-Germain ou dans d'autres villes, si vous n'êtes pas de Paris, et regarder les gens et les critiquer méchamment, c'est toujours possible.
Vous avez des amis dont vous parlez librement de votre entourage, dont Marc-Olivier Rogel, qui ont des enfants. Pour quelle raison n'en avez pas
Vous n'en avez pas eu?
Parce que je suis un PD et que cette époque-là, on n'y pensait pas.
Et surtout, je prolonge ma question. Ouais. Et surtout, si aujourd'hui, vous faisiez le choix d'en avoir, est-ce que vous pencheriez pour l'adoption ou pour la GPA?
Alors, la première chose que je dis à Marco quand il m'a parlé de l'éventualité de faire des enfants, je dis, mais pourquoi tu adaptes pas? C'est vraiment une réflexion d'ignorant. Ils ne peuvent pas adopter, on leur donne pas. C'est aussi simple que ça. Ils ne peuvent le faire que, j'ai des amis qui l'ont fait, ils ne peuvent le faire que s'ils font semblant d'être seuls, qui commencent donc l'éventualité d'avoir des enfants en mentant. Et ça, il n'avait pas envie de le faire parce que c'est un garçon de grande droiture. Donc à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait le faire, puis j'ai mieux encore compris en lisant son livre, mais ça reste pour moi un problème. Mais pour la première partie de votre question, les gays, comme on dit si joliment, de mon âge, n'y ont jamais pensé. À partir du moment que l'âge de 19-20 ans, on se rend compte qu'on est plus intéressé par les garçons que par les filles, on sait qu'on ne va pas avoir des enfants. Moi, mes parents avaient des amis hétéro-normaux, comme on dit, qui n'avaient pas d'enfants. Ils en parlaient toujours avec une forme de compassion, comme si c'était triste qu'ils n'en avaient pas. Mais moi, je ne trouvais pas ça triste, on a des chiens. Ouais. Ce qui est triste, c'est que ça meurt avant nous.
Il y a l'album.
C'est triste. Vous avez Karl Lagerfeld.
Mais vous, votre vie, c'est la scène aussi.
Avant tout.
Avant tout, ouais. Vous continuez de tourner, d'être sur scène.
Comme tout le vieux chanteur. C'est-à-dire que la scène est un moment, et ça, les gens peuvent le comprendre, c'est un moment de nirvana total. Parce que tout le monde comprend l'ADN, mais il n'y a pas que l'ADN, il y a aussi l'endorphine. Moi, j'ai vu Annie Cordy, que je salue, boiter toute la journée, monter sur scène et danser la bonne du curé, sans aucun problème, parce qu'il n'y avait plus de douleur. Moi, je suis déjà monté sur scène enrhumé, et j'ai quitté la scène guéri. Et en plus, on nous paye.
On est bien que sur scène.
On n'est pas bien que sur scène, mais par définition, un chanteur, contrairement à un acteur, il parle de lui-même. Il joue sa propre vie. Sur l'album, il y a Dernier Regard, une chanson pour la mort de ma mère, je parle de ma mère. Oui. Un acteur, il peut faire un cordonnier, un prof. Donc, nous, on ne se cache pas. Donc, on est un peu exhibé. Et dans la salle, il y a pas mal de voyeurs, donc c'est un honnête échange.
Est-ce merci. Que vous pensez
qu'on... Oh, c'est fini. Merci. Okay. Merci. Il y a encore d'autres questions. Merci, Dave. L'album s'appelle Souviens-toi d'aimer. Merci d'avoir fait un crochet par les GG, par les grandes gueules.
Avec plaisir.